Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Donc, je voudrais partager avec vous un court message sur la Pentecôte que je voudrais appeler « De la tour de Babel à la Pentecôte ». Donc il y a des bonnes traditions, hein. On a vu tout à l'heure dans la lecture que j'ai faite qu'il y a certaines traditions qui nous bloquent et on a besoin de découvrir des nouvelles choses. Et donc dans les églises aussi il y a des traditions. À Noël par exemple on lit l'histoire de la nativité, hein. À la Pâque on parle de la crucifixion, de la résurrection. Et à la Pentecôte, des fois on parle de ce qui s'est passé à la Pentecôte. Comme Marie-Thérèse nous a déjà lu le texte. Mais il y a une différence entre ces choses qu'on rappelle, c'est que le petit Jésus, il ne reviendra plus, hein. Il est venu une seule fois. Il ne va pas non plus mourir une deuxième fois pour nos péchés, et il ne va plus ressusciter parce qu'il est vivant pour toujours, il est dans la gloire de Dieu. Et même, il ne répandra plus jamais le Saint-Esprit parce qu'il l'a déjà fait. C'est une réalité spirituelle. Donc il n'y aura plus jamais de première Pentecôte, parce qu'il n'y en a qu'une qui est la première. Mais il y a quand même une différence par rapport à la Pentecôte et ce que nous pouvons en vivre. Et moi, je voudrais vous lire aussi un extrait de Acte 2, mais que je prends volontiers dans la parole vivante. Et des fois, beaucoup de gens se donnent du mal à commenter la Bible. Et des fois, je trouve que c'est tellement simple de juste lire ce qui est écrit. C'est clair, des fois. Il n'y a pas besoin d'en rajouter, de commenter. Des fois, on prend juste un petit morceau de la Bible et on commente pendant des heures. Alors, le jour de la Pentecôte arriva, dans Acte 2. Les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Et quand je disais des traditions, des habitudes, on a peut-être vu des images, on a peut-être vu des gravures et on a vu la petite flamme qui était au-dessus de la tête des disciples. Et certains parlent de la chambre haute, parce qu'il nous est dit qu'à un moment, ils s'étaient rassemblés dans la chambre haute. Mais le récit de la Pentecôte ne dit à aucun moment qu'ils étaient dans une chambre haute quand le Saint-Esprit est descendu. Mais on a des habitudes comme ça. On pense que ça, c'est comme ça, parce que on l'a imaginé, comme on pense que les rois mages étaient là, à la naissance de Jésus avec les bergers. Voilà. Et qu'ils étaient trois. Voilà. C'est toutes nos traditions. Mais la seule chose que la Bible dit, c'est qu'ils étaient au même endroit. Et la Bible dit aussi qu'il y avait 500 personnes qui ont été témoins de la résurrection entre le moment où le Seigneur a été ressuscité et la Pentecôte, mais il n'y avait que 120 qui étaient rassemblés ce jour-là. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme un si violent coup de vent qui s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblent à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun des assistants. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun suivant les paroles que l'Esprit lui donnait d'exprimer. Or, parmi ceux qui séjournaient à ce moment-là dans Jérusalem, il y avait des Juifs pieux venant de tous les coins du monde. Quand on pense tous les coins du monde, de leur monde connu, hein, c'est des mondes antiques aux environs de la Méditerranée, un petit peu plus vers l'Orient. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et restèrent cloués sur place, tant ils étaient étonnés d'entendre les disciples parler chacun dans le dialecte de son pays. Et là encore, pour alimenter notre réflexion, communément les gens pensent que les disciples, à ce moment-là, ils ont parlé plein de langues étrangères. Mais comme l'a fait remarquer notre ami pasteur Donato Anzalone quand il est passé, il a dit, la Bible ne dit pas qu'ils ont parlé des langues étrangères, mais que les autres les entendaient dans leur langue. Quelle est la différence ? On verra. Donc, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et plein d'admiration, ils s'écrièrent. Voyons, tous ces gens qui parlent, ne viennent-ils pas de la Galilée ? Comment se fait-il que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre dialecte maternel ? Et ensuite, il y a toute la dénumération de tous les endroits ou d'où ils venaient. Mais alors, comment se fait-il que nous les entendions publier dans nos propres langues les choses merveilleuses que Dieu a accomplies ? Ils n'en revenaient pas de leur étonnement et ne savaient quoi penser. Qu'est-ce que cela veut dire ? Se demandaient-ils entre eux. Verset 13, c'est très simple, répliquaient ceux qui voulaient tourner la chose en ridicule. Il y en a qui ont toujours des bonnes explications. Et surtout pour réduire le côté miraculeux des choses. Quand, bon, des fois, les chrétiens en rajoutent, on veut prouver le miracle de Dieu. On ne peut pas. Nous, on le ressent comme un miracle de Dieu, et l'autre va dire, mais non, ça devait de toute façon arriver. Mais là, il y a le côté qu'on veut le tourner en ridicule. Alors, c'est très simple, répliquaient ceux qui voulaient tourner la chose en ridicule. C'est l'effet du vin doux. Vous ne voyez donc pas que ces gens sont ivres ? Là encore, des fois, certains pensent que le fait d'être rempli du Saint-Esprit, ça ressemble à de l'ivresse. La Bible ne le dit pas. C'est juste une interprétation par rapport à des expériences que certains ont fait. Mais la Bible ne dit pas que c'était de l'ivresse. Elle dit simplement que ceux qui voulaient tourner la chose en ridicule l'ont interprété comme ça pour diminuer la portée de ce qui était réellement en train de se passer. Alors Pierre donne l'explication. Écoutez-moi. Laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé. Certains d'entre vous insinuent que ces hommes-là seraient ivres. Vous n'y pensez pas. Il est à peine 9 heures du matin. Non, mais vous assistez à l'accomplissement de ce que le prophète Joël a prédit. Et donc, cette annonce sur le fait que l'Esprit allait être répandu. Un peu plus loin dans la parole de Dieu, dans Éphésiens 5, justement, je continue ma petite explication par rapport à l'ivresse. Pourquoi c'est important, on va le voir dans un instant. Dans Éphésiens 5, au verset 18, il nous est dit, voilà la voie qui mène à la plénitude. Beaucoup de gens recherchent la plénitude. Il y a maintenant beaucoup de courants aussi, du bien-être, de toutes sortes, hein, pour que les gens puissent se réaliser. Et donc, l'être humain recherche ça. Il cherche le bonheur, la plénitude. Et donc, il nous est dit, la voie qui mène à la plénitude, ne cherchez pas du côté de l'ivresse que produit le vin. Cela mène à une vie déréglée, au libertinage, à la perdition. Mais buvez à longs traits à la coupe de l'Esprit. Laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit et cherchez en lui votre plénitude. Donc ce n'est pas du tout un discours contre l'usage du vin, puisque nous avons chanté à l'instant que tu changeas l'eau en vin. Et il y a des années de ça, on avait fait un séminaire, on avait notre ami américain Ken Taylor qui était l'enseignant, et puis on était dans un restaurant. Et puis il a dit, oui, c'est comme lorsque Jésus a changé le vin en eau. Alors tout le monde a éclaté de rire. On a dit, oui, ça c'est l'évangile des Américains qui disent que Jésus a changé le vin en eau. Mais non, il a changé l'eau en vin. C'est bien ce que la Bible nous dit et ce que nous croyons. Et donc il n'est pas du tout question d'abstinence totale. Il nous simplement dit, ne recherchez pas dans ce genre de direction ce qui va vous satisfaire. En particulier la plénitude. Mais donc il est dit, mais buvez à long trait. Là encore une comparaison, il faut comparer ce qui est comparable. Mais il donne un exemple pour dire, voilà, des gens peuvent chercher dans une direction, mais vous, il y a quelque chose que vous pouvez expérimenter, qui est extraordinaire et qui va vraiment vous satisfaire. Buvez à long trait à la coupe de l'Esprit. Laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit. Cherchez en lui votre plénitude. Comment ? Et alors il explique, voilà comment vous pouvez faire en chantant des cantiques spirituels, louant Dieu, étant toujours reconnaissant et plein de choses comme ça. Donc on a vu ce qui s'est passé à la Pentecôte, qu'il y a eu ce Saint-Esprit qui a été répandu, certes, mais surtout, et ça c'est la différence, reçu. Parce qu'il y a une différence entre le fait que Dieu veuille faire quelque chose ou donner quelque chose et que l'être humain le reçoive. On a dit que tous les 120 qui étaient rassemblés à cet endroit ont tous reçu. Parce qu'ils étaient unis dans un même accord et c'est ce qu'ils désiraient. Il n'est pas dit que tous les 500 étaient réunis. Ils ont loupé quelque chose ce dimanche-là. Mais peut-être parce qu'ils avaient peut-être laissé tomber au bout d'un moment, n'était pas assez désireux que cette soif soit étanchée ou ne commençait à ne plus croire à la promesse qu'elle puisse s'accomplir. Parce qu'il y avait une promesse que bientôt quelque chose allait venir. Et c'était que ceux qui étaient déterminés, qui avaient cette soif, qui avaient cette attente, qui ont reçu. Et ils ont reçu. Comme je l'ai dit, on peut faire la fête ensemble. Dans le monde des hommes, il y a toutes sortes de choses qu'on fait. On s'associe pour le travail, pour la politique, pour le monde associatif. Et des fois, on fait des fêtes, et puis des fois, il se peut aussi qu'on boive un peu de trop. Et alors, il se crée quelque chose, quand on a bu ensemble, les gens, il y a une espèce d'euphorie. Bon, des fois, il y a aussi des disputes qui éclatent, mais il peut y avoir une euphorie. Et alors, comme quelqu'un a dit, alors on est tous copains, et on est tous unis. On sait que ça dure pendant un petit moment. Hein. Après, il y a les lendemains difficiles. Mais à ce moment-là, on a l'impression que c'est formidable. Et puis après, on revient à nouveau à la réalité de tout ce qui peut se passer, où on n'est plus tellement copains et ça se passe plus tellement bien. On sait qu'il peut y avoir, soit dans une équipe de travail, ou encore une fois, je dis dans un groupe politique ou un truc associatif, il y a des moments où c'est ascendant, là, ça marche, on a le vent en poupe et on atteint des objectifs. Et puis après, on se divise, on se déchire, on se sépare et on est de nouveau découragé. Et donc, remarquez que dans les récits de la Genèse, ça veut dire le début, on a aussi un autre récit où il est question de langage. Et là, on va voir ensemble dans Genèse 11, où je n'ai cette fois-ci pas la parole vivante, parce qu'il n'y a de traduction que pour le Nouveau Testament, mais ça ne fait rien. On va juste se rappeler de ce qui s'est passé dans Genèse 11, c'est l'histoire de la tour de Babel. Alors nous ne sommes pas là pour faire des analyses détaillées, historiques de toutes les réalités de ce qui nous est écrit dans la Genèse. La Genèse est un livre que moi je reçois entièrement comme la parole de Dieu, mais le plus important c'est qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vraiment ils ont voulu créer une tour qui allait jusqu'au ciel? Parce que les gens pensent, souvent on a vu des petites gravures, voilà, ils construisaient une tour, et au bout d'un moment elle s'est arrêtée. Les gens à l'époque se doutaient bien qu'ils n'arriveraient pas à grimper des kilomètres. Hein. Mais le plus important, quand il nous est dit, au verset 1, « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. » Et au verset 4, il nous est dit, « Alors qu'ils étaient ensemble, ils ont construit, ils ont commencé à faire des briques, et ils ont dit, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Et là, pour nous, ce qui est le plus important, c'est de voir ce désir qu'ils avaient de faire une tour dont le sommet touche au ciel. C'est l'illustration parfaite de l'être humain qui, avec ses moyens, avec ses réflexions, avec ses efforts, va essayer lui-même de toucher Dieu, de l'atteindre par quoi ? Ben, Babylone, c'était le royaume... Justement, quand tu parlais des enchanteurs et de tout ça, on imagine un souk avec tout ce qu'il y avait. C'était comme une espèce de centre de recherche spirituelle par toutes sortes de moyens, de connaissances occultes, où tous les astrologues et tous les magiciens se retrouvaient et chacun essayait par les choses mystérieuses, la cabale, d'y en rajouter pour trouver cette connaissance spirituelle. J'ai partagé l'autre jour avoir fait une lecture sur les progrès que l'être humain peut faire par la méditation profonde. C'est des gens qui essayent d'aller dans d'autres dimensions carrément. Et donc toutes sortes de recherches qui en réalité sont une sorte de rébellion contre Dieu. Parce qu'on ne veut pas la voie de Dieu, on cherche toutes sortes d'autres voies. Et donc quand Dieu a vu ça, la Bible nous dit, il a dit, allons, descendons. Et confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Dieu a eu un plan pour sauver l'homme de ses propres idées qui le menaient à la destruction. C'était pas pour, parce qu'il était jaloux, hein. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils vont faire une tour et toucher le ciel? Non. Il a simplement vu que le fait qu'ils soient unis les pousse à aller dans une direction qui ne sera pas bonne pour eux. Et le fait qu'ils soient unis, il nous est dit, Ils forment un même peuple, ils ont une même langue, et qu'est-ce qu'ils ont entrepris? Ce qu'ils ont entrepris, eh bien, on ne peut pas l'empêcher tant qu'ils auront cette unité. Alors dispersons-les par le langage. Donc, l'important, ce n'est pas maintenant qu'on parle toute la matinée des langages, d'où ils sont venus et comment, mais de dire qu'il y avait cette unité, mais qui poussait dans la mauvaise direction. Alors Dieu a confondu et il a tout dispersé. Pour que l'être humain vive pendant un temps, on peut dire comme d'égarement, mais la Bible nous le dit autrement dans les Actes des Apôtres, elle dit « Dieu a voulu que l'homme le cherche comme en tâtonnant ». Il n'a pas dit « Me voilà, j'apparais !» Mais il a dit « Il veut qu'on le cherche comme tâtonnant, comme en tâtonnant, parce que, alors on voit, est-ce qu'il y a un désir profond et sincère de chercher Dieu, ou est-ce que finalement on veut vivre autrement ?» Quand il y a eu cette dispersion, un certain nombre de choses se sont passées, qu'on voit dans la Bible pendant des centaines d'années, jusqu'à ce qu'il y ait le troisième point et le point final, il y a à nouveau un temps de réunification. Maintenant, Dieu pouvait, alors qu'autrefois il y avait une dispersion, il y avait une confusion, il y avait les différents langages, et maintenant il y a une réunification. C'est pour ça que j'ai dit, le plus important pour nous, c'est pas est-ce qu'à la Pentecôte, ils ont parlé toutes les langues qui ont existé dans le bassin méditerranéen, mais qu'il y a eu un langage spirituel qui fait que des étrangers ont entendu de leurs oreilles ce que Dieu voulait leur dire. Vous voyez, des fois on a l'arbre qui cache la forêt, on met l'accent sur des points de détail. Le plus important, c'est qu'il y a eu une manifestation de l'Esprit de Dieu qui a conduit tous les disciples à être unis, à recevoir de l'Esprit le message qui était adressé à toutes les nations représentées ce jour-là. C'est ça le plus important. Et il y a eu une réunification qui nous est expliquée. J'ai toujours ma page en Éphésiens, donc je tourne un petit peu avant. Et dans Éphésiens 2, au verset 11, il nous parle de la différence entre les juifs et les non-juifs. Là, je donne encore un petit mot d'explication dans la Bible. Il est beaucoup question de ça. Et certains se posent peut-être aussi la question, pourquoi le choix du peuple juif? On avait cette vieille carte, de temps en temps je l'ai présentée déjà, si vous vous rappelez, cette vieille carte du monde antique telle qu'on se le représentait. C'était comme une fleur à trois pétales. Et vous aviez au milieu, vous aviez Israël et Jérusalem. Et vous aviez, je le fais pour vous en miroir, vous aviez d'un côté l'Asie qui partait, de l'autre côté l'Europe, et en dessous vous aviez l'Afrique, comme trois pétales, et que ce Moyen-Orient était le carrefour du monde antique. Et donc, en choisissant, il n'y avait pas sur la terre des milliers de peuples, Dieu a dit au hasard, je choisis celui-ci. Non, il a dit à Abraham, installe-toi dans ce pays, fais une alliance avec moi. Et dans ce carrefour, quand les gens passeront et qu'ils verront la bénédiction qui est sur toi, ils sauront qu'il y a un Dieu vivant. Et donc c'était ça l'idée, de choisir cet endroit. Et donc tout passait par là, mais à un moment donné, parce qu'il y a eu le choix de ce peuple, il s'est développé quelque chose chez les Juifs en disant, nous sommes meilleurs que les autres. Nous sommes le choix de Dieu. Ils étaient juste le choix de Dieu pour que la bénédiction, à partir d'eux, s'étende à tout le monde. Mais il n'était pas le choix de Dieu dans le sens qu'il doit y avoir une opposition. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces tensions encore par rapport à l'antisémitisme et par rapport à ce côté historique. Mais donc, certains, en devenant chrétiens, ont rejeté le peuple juif en disant « C'est terminé maintenant, on n'a plus besoin d'eux ». Mais la Bible nous dit autre chose. Elle nous dit que avant, il y avait une séparation. Il y avait deux parties. Et maintenant, il y a une réunion. Et cette réunion, elle se fait par l'Esprit de Dieu. Et nous sommes témoins, en lisant le récit de la Pentecôte, qu'il y a une réunification. Et on comprend mieux le plan de Dieu. Et là, Paul écrit, « Ne perdez pas de vue votre ancienne condition. Rappelez-vous que de naissance, vous qui n'êtes pas des Juifs, vous étiez traités d'incirconcis par ceux qui se disent les circoncis, à cause d'un rite extérieur accompli sur eux. Souvenez-vous qu'à cette époque, lorsque vous viviez sans le Christ, vous n'aviez aucune part au droit du peuple élu de Dieu. Vous étiez tenus à l'écart des alliances basées sur les promesses faites à Israël. Vous n'aviez donc rien à attendre de l'avenir, aucun moyen d'accéder auprès de Dieu. Vous viviez sans espérance et sans Dieu dans ce monde. Mais maintenant, et c'est ça qui est important, maintenant, par votre union avec Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez les éloignés, vous êtes devenus des proches. Proches, on pense à proches parents. On forme une même famille en Christ. Parce que le Christ a versé son sang pour vous et vous a introduit avec nous dans la sphère de l'amour de Dieu. C'est des mots un peu, une sphère. On peut imaginer maintenant ce que c'est. Il est notre paix. N'a-t-il pas rassemblé les deux fractions séparées de l'humanité pour en faire une unité nouvelle? Je ne sais pas si vous observez l'humanité. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une unité? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a deux fractions? Plutôt des milliers de fractions. Et même dans l'Église, tu parlais des dénominations. Elle est morcelée. Elle est en mille morceaux et on ne se rend même pas compte que c'est comme un corps démembré. Des morceaux qui traînent, comme des choses tragiques. Quand il y a une explosion ou un attentat, c'est terrible de voir des membres déchiquetés qui traînent. Comment ce corps pourrait-il encore vivre? Non. Pourquoi la faiblesse de l'Église? C'est bien parce qu'il y a eu cette dispersion du corps et les gens ne se rendent pas compte à quel point Dieu veut rassembler dans un même esprit. Et c'est exactement le sens aussi, on continue dans 1 Corinthiens 12, pour qu'on comprenne vraiment ce qu'il s'est passé à la Pentecôte. C'était pas juste pour avoir une expérience mystique. Tout à coup, un langage céleste aurait un bouché. J'ai un moment où je vis un truc. Non, c'est plus que ça. Même si c'est agréable, c'est beaucoup plus que ça. Mais il nous est dit, donc j'ai dit 1 Corinthiens 12. Maintenant, il faut que je trouve le bon verset, voilà. Il nous est dit que le Christ, 1 Corinthiens 12, verset 12, est semblable à un corps humain, avec ses différents membres et organes. Tout en ayant beaucoup d'organes, le corps forme un tout. Ces organes, malgré leur multiplicité, ne constituent ensemble qu'un seul corps. Il en est bien ainsi du Christ. Car nous avons tous été immergés, donc, c'est le même mot que baptême. Hein. Baptême, c'est immerger. Donc, une autre version nous dit, nous avons été baptisés. Ici, nous est dit immergés, plongés dans un seul et même esprit pour former un corps. C'est ça le but. Pour former un corps. Parce que contrairement à un corps naturel, le corps naturel, s'il est démembré, la main peut pas se dire tiens je vais me rattacher au reste, c'est pas possible. Mais nous qui sommes différents membres, nous on peut choisir de se laisser unir pour former un même corps et travailler ensemble à atteindre cette unité dans la foi. On sera peut-être jamais d'accord, comme tu disais, sur certaines pratiques, sur certaines doctrines, certaines habitudes, mais peu importe. Mais une chose on peut être d'accord, c'est l'unité de la foi. Parce que tous les chrétiens sont amenés à développer leur foi. On remplace par le mot confiance et vous avez tout compris. Il n'y a aucun chrétien qui va vous dire, tu sais, tu devrais faire moins confiance à Dieu. Ce serait un conseil ridicule. Hein? Alors, on sait qu'on a tous besoin d'apprendre à lui faire davantage confiance. Et sur ça, on peut tous être d'accord. Peut-être, je sais que on a notre façon de faire la Sainte Cène, mais qu'est-ce qu'il y a eu comme dispute, hein? Est-ce qu'on a utilisé le bon pain? Est-ce qu'on a utilisé le bon vin? Est-ce que c'est du vin ou du jus de raisin qu'il faut? Est-ce qu'il faut des petites gobelets? Est-ce qu'il faut une coupe? Discussions à n'en pas finir sur des choses totalement secondaires, voire même plus que secondaires. Mais donc l'important c'est de réaliser, nous travaillons ensemble à nous laisser remplir de l'esprit pour former un corps et pour être ensemble dans l'unité de la foi. Et maintenant, la conclusion et la question finale, le voulez-vous? Le voulez-vous? Et là, on revient dans acte 2. Alors, imaginez, ça s'est passé il y a à peu près 2000 ans. Mais Pierre qui a pris la parole, on peut dire qu'il était... Il a prophétisé, qu'il a parlé de la part de Dieu, mais qu'il avait une vision qui allait très loin. Elle allait jusqu'à chez nous, maintenant. Il a dit à un moment, quand les gens étaient vraiment bouleversés par ses discours, il dit, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse maintenant? Et Pierre leur répondit, changez, que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus le Christ. Cela signifiera que vos péchés sont pardonnés. Alors vous aussi, vous recevrez en cadeau le Saint-Esprit. Vous voyez, il est dit, vous recevrez. Il n'est pas dit, alors Dieu vous donnera. Parce qu'il a déjà répondu. Mais c'est à vous de recevoir. Verset 39, car Dieu vous l'a promis à vous et vos enfants, donc ceux qui écoutaient, la génération suivante, mais encore à tous ceux qui dans les pays lointains, c'est nous, entendront l'appel du Seigneur notre Dieu, qui leur demande de venir à lui. Il leur demande de venir à lui. Donc le voulez-vous, c'est la promesse est pour vous, vivez votre Pentecôte chaque jour. Laissez-vous continuellement renouveler, buvez à cette eau. Et quand il est dit, quand on a vu ici, de venir à lui, c'est aussi l'appel de Jésus. Il nous est dit dans Jean au chapitre 7 que Jésus, le jour de la fête, on peut dire d'une certaine façon aujourd'hui, c'est aussi la fête, hein, la fête de la Pentecôte. Jean 7, verset 37. Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule. Dans nos versions habituelles, nous lisons, et il s'écria. Hein, j'ai souvent dit, des fois on montre un Jésus doux, même des fois un peu placide ou débonnaire, que je n'aime pas trop. Mais là, il nous est dit, il s'écria, et moi j'ai ici, il lança à pleine voix. Ça veut dire que c'est vraiment un appel, c'est quelque chose de fort. Et qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, comme le dit l'Écriture. Et des fleuves d'eau vive jailliront de l'être intérieur de celui qui place sa confiance en moi. En disant cela, il faisait allusion à l'Esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné, on est ici avant la Pentecôte, parce que Jésus n'était pas encore entré dans la gloire, parce qu'on était aussi avant la crucifixion, avant la résurrection et avant la glorification. Mais maintenant, nous sommes dans toutes ces choses. Tout ça s'est passé, tout ça s'est accompli. Et donc, on va lui demander de faire ça. D'accord ? Amen ? Et nous allons tout simplement élever notre voix vers Dieu pour le remercier pour ce moment ensemble et le laisser nous remplir et nous fortifier. Merci Seigneur pour ce dessein que tu as pour chacun d'entre nous de pouvoir te connaître et de pouvoir réaliser le plan que tu as non seulement pour notre vie mais aussi pour l'Église, pour l'humanité. Tu as voulu rapprocher ce qui a été divisé. Et surtout, tu as voulu donner cette capacité de nous approcher de toi. Merci pour la route maintenant qui est ouverte, la route nouvelle et vivante. Merci de pouvoir venir dans ta présence. Remplis-nous de toi en cette journée. Merci pour tes bienfaits.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.